Eh bien voilà, bonjour à chacun. Oui, c'est vrai que ça nous fait plaisir d'être là ce matin et puis de vous revoir les uns les autres. Alors, c'est vrai, ça fait déjà quoi, une trentaine d'années que nous venons ici à, je crois que c'est cette année, ça fait 30 ans cette année que nous venons à l'Évol. Et c'est vrai que le Seigneur est bon à travers les années, il nous a permis d'avoir cette communion les uns avec les autres. Et puis voilà, eh bien, on remercie le Seigneur pour cette occasion aussi qu'il nous offre d'être là ce matin. Alors, j'aimerais vous apporter quelques nouvelles de l'équipe, donc, de Christ à la réponse. On sillonne toujours sur l'Espagne. Là, cette dernière année, on est retourné dans différentes villes que nous avions déjà fait auparavant, et ce qui nous a permis de reprendre contact avec différentes personnes qui avaient déjà entendu parler de l'Évangile. Et puis, donc, le Seigneur, dans sa grâce, eh bien, nous a ouvert des portes afin que l'Évangile soit propagé encore, les autorisations sur les places, non seulement sous la tente, les réunions que nous faisons sous tente, 5 jours par semaine, mais aussi les réunions sur les places que nous continuons toujours à faire. Alors donc, c'est vrai que le Seigneur nous permet des occasions formidables. On était dans la ville de Niebla il n'y a pas longtemps. Là, on a fait un déplacement donc dans la ville d'Escacena. Et puis à Niebla, alors c'est une ville quand même assez touristique parce qu'elle est de type un peu Moyen Âge. Alors il y avait beaucoup de cars d'excursions, vous savez, de personnes âgées, enfin, d'autres qui étaient plus jeunes, mais qui venaient et puis défilaient devant nous. Alors, on était là en train de faire la réunion, les gens descendaient, et puis voilà, ils entendaient l'Évangile. Le Seigneur nous a conduits à pouvoir annoncer l'Évangile de nombreuses personnes, des centaines de personnes qui ont eu l'occasion d'entendre le message de l'Évangile. Tous les samedis, on faisait les réunions, et puis tous les samedis, il y avait des cars qui venaient de différents coins de l'Espagne. Alors, on a pu évangéliser bien des personnes. Et bien sûr, les gens des villes où nous sommes, qui ont l'occasion aussi d'entendre l'Évangile. On va dans les quartiers, on fait des réunions en plein air aussi dans les quartiers. Alors, on remercie le Seigneur, et bien encore, que cette année, l'Évangile a été annoncé. Et puis, c'est vrai que, comme le disait notre frère Joseph, c'est vrai que avant le printemps vient l'hiver, c'est vrai que des fois on passe par des épreuves. On n'est pas exempt. C'est pas dit parce qu'on va prêcher l'Évangile qu'on est exempt des épreuves. Alors, les épreuves cette année, nous en avons eu de différentes sortes. C'est vrai, on n'avait jamais eu dans notre équipe. Moi, ça fait quoi, 42 ans que je suis avec ce ministère. On va toujours de ville en ville pour annoncer le message de l'Évangile. Jamais personne n'avait eu de cancer. Et puis là, voilà, en espace d'environ 2 mois, il y a eu 2 cancers dans l'équipe. Cancer du sein. Alors, l'une d'entre elles, c'est ma belle-sœur, donc mon frère, c'est le responsable de l'équipe, là, en Espagne. Eh bien, ma belle-sœur a été opérée d'un cancer. Alors, elle va bien, donc c'était minime, c'était 14 millimètres, alors qu'elle a été opérée de ça, et puis elle a dû faire de la radiothérapie. Et puis, voilà, selon la révision qui a été faite par la suite, eh bien, ça va, c'est bon. Alors, donc, on lui a dit, dans une année, voilà, vous venez dans une année, pour la prochaine révision. Notre sœur Louisa, qui est l'institutrice principale de l'équipe, pour les enfants, donc il y a une dizaine d'enfants dans l'équipe, et puis donc il y en a 7 qui font l'école. Alors notre sœur aussi a eu un cancer du sein, alors elle a dû se faire enlever le sein. Alors ça a été donc un peu plus compliqué, donc il y a eu la chimio par la suite. Là, elle doit faire un autre traitement qui est dans la suite de ce qui doit se faire normalement. Ça prend environ une année afin que tout soit terminé. Alors donc c'est vrai que à travers ça, on pourrait dire oui, ces épreuves qui nous arrivent. Et là, Dieu a permis des contacts formidables que notre sœur Louisa a eu avec à l'hôpital avec différentes personnes. Et là, il y a une personne qui toujours lui l'appelle parce qu'elle a eu l'occasion de lui parler de l'Évangile. Et puis de rester rayonnant dans la paix, c'est vrai que le Seigneur, Louisa disait, moi ça a été une expérience tellement forte, parce qu'elle disait, normalement, je craignais pour des petites choses, des fois, vous savez, on craint pour des petites choses qui se passent, des fois, et puis là, elle disait, pour une chose aussi grosse, eh bien, j'avais une paix, mais qui m'inondait, que j'avais aucune crainte. Alors donc, elle a été dans la paix durant tout ce temps, et elle l'est toujours. Alors on remercie le Seigneur, et bien c'est vrai qu'à travers tout cela, le Seigneur se manifeste et nous aide. Et puis on a eu différentes épreuves, il y a bien des changements en Espagne, hein, avec la crise économique et tout cela. On avait par exemple des contrats à forfait, hein, pour l'électricité, alors ça nous permettait d'utiliser toute l'électricité qu'on voulait, à un prix très réduit. Alors, et là maintenant ça a changé, là maintenant ils ont décidé de passer au compteur. Alors là c'est clair que ça coûte nettement plus, même en faisant tous les efforts pour économiser le plus possible, ça coûte nettement plus. Mais là on a vu aussi la main de Dieu à travers cela. Parce que normalement, notre frère Américo et son épouse Louisa, qui est l'institutrice, ben, eux ils font une tournée, comme nous faisons nous ici en Suisse, eh bien ils tournent donc dans différentes églises au Portugal. Et là, cette année, ils n'ont pas pu aller justement à cause de l'état de notre sœur Louisa. Et puis, avec ma belle-sœur, eh bien, ça a été un peu la même histoire, parce que eux aussi font une tournée en Finlande, elle est finlandaise, ils font une tournée en Finlande, et puis, cette année, eh bien voilà, avec ce qu'ils avaient, ben, finalement, il y a eu toutes sortes de différentes difficultés, non seulement à travers ça, le cancer qu'elle a eu, on a eu des problèmes avec l'automobile aussi, de l'équipe. Et là, on a vu, on s'est dit, mais Seigneur, alors comment tu vas pourvoir? Parce que là, il y avait des besoins pour les assurances des camions et tout cela. Et le Seigneur a pourvu de manière, mais vraiment, il nous a laissé entendre qu'on ne dépend pas nécessairement des hommes, quoique c'est vrai qu'on reçoit l'aide des frères et sœurs ici et là, mais que c'est vrai, on doit mettre notre confiance en lui, et lui est capable de conduire et de pourvoir d'une manière et d'une autre. Et là, c'est vrai qu'il a utilisé d'autres frères, mais sans qu'on fasse d'appel, sans qu'on laisse savoir nos besoins, le Seigneur a pourvu à nos besoins. Alors, on voit la main de Dieu, ça nous a encouragé de voir à travers cela comment Dieu est capable de prendre soin de nous. Et puis, on a eu différentes difficultés. Bon, là, il y a des nouvelles lois qui se sont établies. Alors, j'ai dû faire un cours pour le certificat d'aptitude professionnelle, ça s'appelle le CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Alors, on ne savait pas qu'on avait besoin d'avoir ces cartes-là. Alors, on déplace nos véhicules de ville en ville, hein, c'est de 2 mois dans une ville, 2 mois dans une autre, et puis, je ne sais pas qu'on fait des grandes distances, mais quand même, on doit déplacer nos véhicules. Mais là, le jour de Noël, il y avait notre frère Paco qui était là, et je voyais qu'il y avait différents, il sortait son porte-monnaie, puis il y avait différentes cartes. J'ai dit, c'est quoi cette carte? Il dit, c'est le CAP. Il dit, mais tu as pas le CAP? J'ai dit, non, je ne sais même pas qu'on a besoin du CAP. Alors, ça fait déjà quelques années que ça existe. Ah, mais il faut faire attention. Si la police t'arrête, c'est une amende de 2 001 €. Alors, voyez-vous, le Seigneur nous a gardé durant ce temps-là, parce que moi, ça faisait au moins une année et demie que j'aurais dû l'avoir eu. Alors, j'ai dû faire ce cours, donc, à une auto-école, voilà. Il s'agit simplement d'assister, on ne vous fait pas faire d'examen, et puis voilà. À la fin, ben, ils m'ont donné le CAP. Ça, c'était juste avant de partir. Mais c'est vrai que on court ici et là. On a notre compte bancaire, ici en Suisse, donc, pour les frères et sœurs qui veulent nous aider. Ben voilà, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? L'UBS a décidé de fermer notre compte. Alors, ils nous ont donné 3 semaines comme ça, et on dit, dans 3 semaines, nous fermons votre compte. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'est pas résident en Suisse, on est résident en Espagne, et puis que les fonds vont pour une association qui est en Espagne et non pas en Suisse. Alors finalement, ben voilà, alors on est en recherche pour essayer de trouver une façon, peut-être à travers la poste, enfin on va voir qu'est-ce que... Mais on voit la main de Dieu, le Seigneur nous aide, et au milieu de toutes ces difficultés, enfin qui font partie, je pense, de notre vie de nomade, hein, c'est vrai qu'on vit une vie un petit peu différente que les autres. Alors, à travers tout cela, eh bien, le Seigneur manifeste sa bonne main avec nous, nous conduit, nous ouvre les portes, il demeure le même, il ne change pas. Alors ça, c'est encourageant, nous sommes encouragés et nous désirons continuer d'annoncer le message d'Évangile et de poursuivre cette œuvre afin que des âmes puissent se tourner vers le Seigneur, puissent être sauvées. Cette dernière année, le Seigneur a touché des cœurs de différentes personnes. Là, dans la ville de Niebla, il y avait cet ancien garde civil. Vous savez, la garde civile, ça c'était... avec en Espagne, c'est pas la gendarmerie, c'est un autre domaine de la police. Et puis un de ces messieurs est toujours dans notre campement. Alors maintenant il a ouvert ses portes, il désire que nous allions chez lui puisque nous ne sommes plus dans sa ville, afin que nous puissions apporter la parole et puis tout cela. Alors, son épouse est très ouverte également. Alors, donc, prions pour toutes ces personnes, ces âmes qui ont entendu le message de l'Évangile, et puis certains qui sont ouverts, qui ont ouvert leur cœur au Seigneur. Alors, prions pour eux. Alors, ce matin, j'aimerais vous encourager avec la Pâque. Nous célébrons la Pâque, n'est-ce pas? Et c'est vrai, la Pâque, bon, dans le monde, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Pour nous chrétiens, alors ça devrait signifier vraiment avoir une signification très importante. Et la Pâque, moi, comme la plupart d'entre vous le savez, je me suis converti aux États-Unis. Et aux États-Unis, quand j'avais étudié l'anglais pendant 8 ans, mais je ne le parlais pas, j'étais allé aux États-Unis dans le but aussi de pratiquer un peu l'anglais, de pouvoir. Et puis c'est là que je me suis converti. Et quand je me suis converti, alors là, en apprenant un petit peu certains termes du langage anglais, ben vous avez 2 mots pour la Pâque. Alors, il y a un mot qui, c'est pour ceux qui connaissent l'anglais, ben c'est le mot Easter, hein. Easter Day, ça veut dire le jour de Pâques. Voilà, on dit Easter. Alors ça c'est dans le monde, la parole qui est utilisée couramment dans le monde. Easter Day, c'est le jour de Pâques. Voilà. Mais il y a un mot qui est biblique, donc, et dans la Bible, on ne trouve pas le mot Easter. Alors, on trouve le mot Passover. Alors, Passover, alors, c'est un seul mot, mais qui en réalité, et c'est comme s'il y avait 2 mots. C'est le mot pass qui vient, donc, on sait en français, c'est passé, hein, on dit passé. Et puis, over, ça veut dire par-dessus. Alors, passer par-dessus. Et ça c'est le terme que nous trouvons dans la Bible en anglais. Passover, on passe par-dessus. Alors, c'est là que la Pâque prend sa signification, parce que quand nous lisons les textes bibliques, eh bien, nous retrouvons, donc, cette expression, on voit dans la Bible, même en français, on voit qu'il y a donc on passe par-dessus. Alors, le Seigneur est passé par-dessus. Alors, on va voir ça un petit peu plus en avant. J'aimerais commencer par un passage dans 1 Corinthiens. Notre frère a lu dans 1 Corinthiens chapitre 13. J'aimerais poursuivre en allant au chapitre 15. Et nous allons lire les premiers passages. C'est dit, l'apôtre Paul continue en disant, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Alors, ce qui fait la différence entre le christianisme et les religions, eh bien, frères et sœurs, nous savons que l'Évangile est porteur de vie. Le message de l'Évangile est porteur de vie, amène à la vie. C'est ce que toute personne devrait expérimenter quand il entend l'Évangile, reçoit l'Évangile. À ce moment-là, il y a la vie qui se manifeste. Et ça, c'est très différent de ce que peut être une religion. Hein? Les religions, moi je dis toujours que les religions, c'est un peu comme des tombeaux dans lesquels on enterre les gens. C'est un peu, disons, si je devrais dire, parler un peu des religions, parce qu'en réalité, les gens qui pratiquent ces religions et s'habituent à pratiquer ces religions, eh bien sans s'en rendre compte, eux, ils pensent qu'ils sont dans un bon chemin. Alors, ils pratiquent des religions, mais on n'a pas la vie. Alors, on reste avec quoi? On reste avec la mort. Et c'est ce qui se passe avec de nombreuses personnes à travers le monde, avec les religions. Moi, je dis toujours, les religions, c'est des tombeaux dans lesquels on enterre les gens. Et les gens, sans s'en rendre compte, ben, ils font partie d'un... Bon, je m'en rendais compte quand j'étais... Je me souviens, en tant que catholique, je dis pas ça pour critiquer les gens, mais je vous dis sincèrement comment je me sentais, moi, personnellement. Eh bien, je me sentais comme si c'était des funérailles tous les jours. Pourtant, j'étais sincère. Je voulais servir Dieu. J'ai fait 50 séminaires, tout cela. Mais ça me paraissait des funérailles tous les jours. Pourquoi? Parce que nous savons que ce n'est pas les religions, ni l'une ni l'autre, qui peut amener la vie. C'est Christ qui nous amène la vie. Et si nous n'avons pas Christ, nous n'avons pas la vie. Alors ça, c'est important comme point de départ. Alors, j'aimerais lire un passage dans Exode, chapitre 12, et là, nous allons aller dans le texte qui nous parle de la Pâque. Le texte qui nous parle de la Pâque. Alors, Exode, chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. C'est dit comme cela. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Alors, en somme, c'est ce qui se passe présentement. Parmi le peuple juif, eh bien, ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année du calendrier juif. Et c'est dit comme cela. « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Alors ça, c'est important aussi. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et ensuite, il rajoute, « Le sang vous servira de signe sur les maisons. » Merci mon frère Claude. « Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Par-dessus vous. Et ensuite, il dit, « Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Alors, ça, c'est la Pâque. Alors, on voit ici que, donc, c'était le soir avant qu'ils puissent échapper de l'esclavage d'Égypte. Ils étaient donc en Égypte, en esclavage. Et puis, là, Dieu avait demandé justement qu'on puisse sacrifier un agneau. Alors chacun devait prendre part donc dans cette fête-là, c'est-à-dire qu'on devait immoler un agneau et puis on devait donc l'offrir en sacrifice et puis donc chacun devait participer, devait donc manger de l'agneau. Et puis il y avait le sang de l'agneau qui devait être appliqué sur les deux poteaux des portes dans les maisons dans lesquelles donc il allait être mangé. Alors donc, sur les poteaux et sur le linteau de la porte, tout en haut, eh bien là, le sang était appliqué. Et puis là, quand l'ange exterminateurs, ensemble, qui n'en devaient passer hein, sur l'Égypte, alors que tous les premiers-nés des Égyptiens et aussi les animaux devaient mourir. Et bien là où il y avait le sang, sur les poteaux et sur le linteau, et bien à ce moment-là, l'ange passait par-dessus. La mort, à ce moment-là, n'était pas. Alors, ça, c'est une manifestation de ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous. On sait qu'il a été l'agneau qui a été immolé pour nous, et son sang nous purifie de tout péché, et ça fait que le jugement de Dieu, au lieu de passer sur nous et de tomber sur nous, hein, la colère de Dieu, le jugement de Dieu, eh bien, là, nous en sommes exempts. À cause du sang de l'agneau, parce que nous avons été lavés, nous avons été purifiés de nos péchés, de nos souillures. Alors ça, c'est ce que la parole de Dieu nous rappelle. Et c'est pour ça que c'est ce qui fait la différence, comme je dis, entre la vie, parce que ça nous amène la vie. La mort de Christ nous a permis, par son sang, de nous amener cette communion, cette relation avec Dieu, cette vie qui est éternelle. Parce que c'est ça, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et son Fils Jésus-Christ, qui l'a envoyé. Alors donc, nous avons la vie en Christ. Alors ça, c'est important. Il y a des années en arrière, je me souviens, j'apportais un message, ça devait être dans les années 80. Et c'est un message que, si je ne me trompe, ce message-là a dû être prêché aussi également ici dans l'Assemblée. Je parlais de la différence entre la chrétienté et le christianisme. C'est-à-dire, ceux qui sont chrétiens de nom et ceux qui sont chrétiens, mais pas seulement de nom, mais vraiment qui ont expérimenté cette vie nouvelle en Christ. Et j'apportais différents exemples que nous retrouvons dans les paraboles de Jésus. Alors, il y a de nombreuses paraboles qui font refléter cet aspect-là. La différence entre la chrétienté, et ça, la chrétienté, ça peut inclure un nom bien, vous savez, on peut parler du catholicisme, du protestantisme, on peut parler de... Mais, voyez-vous, il faut faire attention aussi en ce qui nous concerne, nous, parce que si nous n'avons pas cette vie, ou si nous ne l'avons jamais eue, ou si nous perdons cette vie, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, à ce moment-là, nous nous retrouvons un petit peu comme si on a une forme extérieure, mais on n'a plus rien à l'intérieur. Hein? Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Alors, donc, il doit y avoir donc cette différence. Cette différence doit être marquée. Et c'est là que le Seigneur nous donne, il y a différentes paraboles, et j'aimerais en prendre quelques-unes. C'est dans Matthieu, au chapitre 13. Alors, nous connaissons, par exemple, la parabole du semeur, hein. Alors, il y a la parabole du semeur. La parole a été semée. C'est pas qu'elle n'a pas été semée, elle a été semée dans le cœur des gens. Mais, on sait que qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, il y en a eu trois ensemble qui sont restés à part, qui ont jamais donné de fruits. Et comme notre frère Joseph nous le disait auparavant, hein, bien, justement, avec le printemps, eh bien voilà, il y a quelque chose, il y a la vie qui se manifeste et ça doit produire son fruit. Il doit y avoir un fruit qui doit se manifester. Alors, justement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit avec la parabole du semeur, eh bien, il y avait donc ceux qui étaient tombés sur le long du chemin, l'autre sur les pierres, et l'autre parmi les épines. Bien, ça, on peut dire que ça fait partie de la chrétienté, mais une chrétienté qui est bien, bien ample, mais qu'en réalité, qui n'a pas de vie. Mais là, on voit que là où c'est tombé dans des cœurs qui étaient sincères, hein, qui ont reçu cette parole, et puis ça a porté du fruit. Il y a eu une vie qui s'est manifestée. Ça, c'est le christianisme réel. Et puis, on voit différents exemples. On a l'exemple, par exemple, de l'ivraie et du bon grain. On voit que c'est dans un même champ. Hein. Le Seigneur dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et puis là, le Seigneur explique, il dit comme cela, il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume, il ne dit pas de quelque chose d'extérieur, non, il dit de son royaume, il arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il n'y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors on voit là cette différence entre l'ivraie, pourtant c'est dit dans son royaume, mais là il y avait l'ivraie et il y avait le bon grain. Et on voit la différence. Alors ça fait la différence entre la chrétienté et le christianisme. C'est-à-dire, donc les vrais chrétiens, ceux qui avaient vraiment cette vie, qui avaient reçu cette vie de Christ, qui l'avaient vraiment expérimenté, cette résurrection en Christ, cette Pâque était devenue la leur. Alors ça c'est important. On voit aussi par exemple un autre exemple. On voit par exemple dans le verset, on peut lire par exemple le verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alors donc, il y a la farine et puis il y a le levain. Alors, on voit qu'il y a deux choses, il y a un mélange là. Alors, donc, la farine, on pourrait dire ici, la farine, bien ça, ça fait partie du christianisme. Ça, c'est ce qui doit être le vrai. Et puis, il y a le levain, eh bien ça n'en fait pas partie du tout. Alors, donc, on pourrait parler ici de la chrétienté, et puis avoir beaucoup de levain, mais voilà, ça ne fait pas partie en somme, du christianisme réel. Là, il n'y a pas de vie réelle. Et d'ailleurs, si nous lisons dans 1 Corinthiens, nous allons retourner à 1 Corinthiens, nous allons lire au chapitre 5. Regardez, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il est dit ici. 1 Corinthiens, chapitre 5, la deuxième partie du verset 6, c'est dit comme cela. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Alors, Jésus, donc, a bien parlé de cette parabole, n'est-ce pas, le levain qui fait lever la pâte, la masse. Alors, il dit, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Il rajoute, « Célébrons !» Et c'est là qu'on est ici pour cela, frères et sœurs, ce matin, pour célébrer la Pâque, la fête de Pâques. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc le christianisme réel, c'est, on pourrait dire, les pains sans levain. Et c'est vrai qu'en Christ, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas d'iniquité. Ça, c'est notre Seigneur. Il était un pain, le pain qui est descendu du ciel, mais un pain sans levain. Et c'est ça qu'à la Pâque, eh bien, on mangeait l'agneau, mais on mangeait aussi le pain sans levain. Je ne parle pas le vin ici, V-I-N, c'est L-E-V-A-I-N, il faut bien comprendre. Alors, ne pas faire la différence. Alors, c'est pour cela, frères et sœurs, il est important que il y a un impact de la Pâque dans notre vie. C'est-à-dire la Pâque réelle. Christ est mort pour nos péchés, son sang a été coulé, son sang nous lave de nos péchés. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'iniquité, qu'il y ait de la malice, de la méchanceté, comme c'est écrit ici dans ces passages, dans notre vie. Ça ne doit pas exister dans notre vie. Puisque Christ est venu pour nous nettoyer, pour nous purifier, c'est ce qui doit faire la différence. Dans la chrétienté, il y aura plein de monde qui, peu importe de quelle façon ils rentrent par la porte d'une église et puis en sortiront, ils iront avec leurs péchés. Mais le vrai christianisme, il y a un impact de la Pâque. C'est-à-dire cette Pâque-là, c'est Christ qui a été immolé, qui est mort pour nos péchés, et Christ est sans levain. Et si nous mangeons ce nom, le nom Christ, comme c'est dit, nous prenons pas, comme nous prenons à la Sainte-Sainte, ça veut dire qu'à ce moment-là, nos péchés doivent être mis à part. On peut pas. Christ nous a purifiés par son sang de nos péchés, c'est ce que nous proclamons. Et ça doit se manifester dans notre vie de chaque jour. Et puis, il y a bien d'autres paraboles que je partageais à ce moment-là, comme je vous disais, bien des années en arrière. On lit par exemple la parabole du filet qui a été jeté, qui ramasse toutes sortes de poissons, et puis à la fin, on jette ce qui n'est pas bon, puis on garde les poissons qui sont bons. Voyez-vous, alors ça c'est aussi une représentation du christianisme et de ce qu'il n'est pas, même en étant dans un même filet. Et puis, j'avais la parabole des 10 vierges, hein, on a la même parabole. Alors 5 qui étaient sages, 5 qui étaient... Pourtant, c'était la parabole nous dit, ça parle de 10 vierges, ça ne parle pas que 5 étaient vierges et les autres ne l'étaient pas. Alors donc, c'est là qu'on voit qu'il y a ces paraboles dans la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, célébrons. C'est ce que l'apôtre Paul nous invite dans ce premier épître aux Corinthiens. Célébrons la fête. C'est dit, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et là, notre Seigneur, ça rejoint ce que notre Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si on est en communion avec lui, on est en communion avec la vérité, nous marchons dans la vérité. Et si nous sommes en communion avec lui aussi, eh bien à ce moment-là, nous marchons dans la pureté. Et ça, c'est important. C'est cet impact qu'amène le message de l'Évangile. Alors, frères et sœurs, je vous encourage. Célébrons la Pâque. Amen. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. On est là pour célébrer la Pâque. Alors, c'est pas simplement en ce jour-là, mais je crois que c'est vrai que c'est important de marquer des jours ici et là. Je pense avec nos enfants, avec nos petits-enfants, de marquer des jours et puis de leur rappeler que voilà, il y a eu cette fête, hein, une des fêtes juives, la Pâque. Et puis la Pâque, elle est réelle, parce que Christ est notre Pâque. Et il est venu pour chacun d'entre nous. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions. Merci, Seigneur, oui, pour cette grâce que tu nous as faite. Quand tu nous as vus dans nos péchés, dans notre malheur, dans notre perdition, eh bien, Seigneur, tu es venu à notre recherche. Tu es venu pour sauver et chercher et sauver ce qui était perdu. Eh bien, Seigneur, c'est vrai, nous étions perdus. Tu es venu, tu nous as aimés comme nous avons entendu. Et c'est vrai, Seigneur, que tu t'es donné par amour pour nous. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour ton sang qui a été versé à la croix. Et Seigneur, ce sang qui fait que tu passes par-dessus parce que tu vois le sang de ton Fils bien-aimé qui nous a purifiés, qui nous a lavés de toute souillure, de tout péché. Eh bien, Seigneur, aide-nous à marcher dans cette pureté, de marcher dans la vérité, de marcher vraiment comme des pains sans levain, Seigneur, et que nous puissions célébrer continuellement cette fête avec toi. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour mes frères et sœurs. Veuille les bénir, les encourager dans leur marche avec toi, Seigneur, durant cette prochaine année encore. Oui, Seigneur, nous te remercions et te bénissons. Au nom de Jésus, Amen. Amen.